toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de celui qui attend toujours vos clés pour Escape from Tarkov, c'est Pixel.
Ouais, je suis encore malade, alors donnez-moi vos clés s'il vous plaît.
Et de celui qui vient de sortir une vidéo sur Super Mario Odyssey sur sa chaîne, c'est Morren.
Salut tout le monde.
Morren qui nous fera, par ailleurs, un test de Mario Odyssey, ici même.
Et oui, tant qu'à faire.
N'est-ce pas ? Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de Super Daryl Deluxe. On enchaînera ensuite sur Super Mighty Power Man. On évoquera également Konjac, qui revient d'entre les morts et qui nous reparle d'Iconoclast. Nous évoquerons Session, un jeu de skate qui va bientôt lancer sa campagne Kickstarter. On parlera de la grève des doubleurs de jeux vidéo, suite et fin, n'est-ce pas Morlan ? Et enfin, nous évoquerons les jeux en ligne, dont certains jeux de Ubisoft, n'est-ce pas ? Electronic Arts et Star Wars Battlefront 2, hein, on pouvait pas passer à côté. Et enfin, nous terminerons avec Telltale, qui a eu quelques petits soucis dans la gestion de ses projets, n'est-ce pas ? On va commencer, messieurs, donc avec Super Daryl Deluxe. Qu'est-ce que c'est Super Daryl Deluxe ? C'est un action RPG. Comme le titre du jeu l'indique si bien, vous allez jouer un étudiant qui s'appelle Daryl, dans un univers un peu barré en noir et blanc, avec des petites touches de couleurs par-ci par-là du plus bel effet, qui va se retrouver en fait dans un espèce de lycée qui a été envahi par les forces du mal, je crois qu'on peut dire ça comme ça. En tout cas, il se passe des choses cheloues, parce qu'il y a des étudiants qui ont disparu, il y a certaines classes qui sont fermées depuis des semaines et on sait pas ce qui se passe à l'intérieur, enfin bref. Daryl, donc, va explorer ces endroits-là. Il va se retrouver en contact avec des choses assez surnaturelles, on va dire. Et surtout, il va commencer à débloquer des pouvoirs un peu chelous. Genre, il va se mettre à surfer sur un requin, tu vois, ce genre de choses, ce qui est très très logique. Et je sais pas comment vous décrire ce jeu, si ce n'est que ça a l'air complètement barré du ciboulot, quoi. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Ça a l'air assez spécial. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que c'est un jeu, tu sais, qui a des animations très détaillées. Et je sais pas si vous vous rappelez le podcast qu'on avait fait où on parlait avec Mamie Lamy de Cuphead. Et Mamie Lamy avait une inquiétude sur Cuphead. C'est que quand tu fais des animations comme ça, ça peut parfois rentrer en conflit avec la nervosité du gameplay. Si tu fais mal ton boulot et que tu fais un jeu qui est avant tout beau avec des bonnes animations, mais que derrière, par exemple, le joueur il peut pas interrompre l'animation pour faire autre chose, tu vois, bah, ça peut donner un gameplay qui est chiant, par exemple. Donc c'est juste ça ma petite inquiétude. Sinon, moi vraiment, ce qui m'attire sur ce projet qui avait été financé sur Kickstarter en 2014, c'est le côté what the fuck du truc, quoi. À part ça, ça n'a pas l'air original pour un sou, mais c'est juste l'univers qui a l'air complètement... voilà, quoi.
Ouais, puis une DA plutôt jolie. Hein.
C'est ça. Pixel,
Tu
vas nous parler d'un Kickstarter qui rappelle très fortement Megaman.
Voilà, Super Mighty Power Man, The Champion of the Galaxy, le titre complet. C'est un jeu d'action plateforme en 2D. C'est pas que ça nous rappelle Megaman, c'est que c'est du Megaman.
Un peu comme Shovel Knight était du Picsou, quoi, du DuckTales.
Voilà, exactement. Donc c'est un projet Kickstarter, plutôt style rétro 8-bit, très coloré.
C'est-à-dire que ça imite le style rétro 8-bit, mais quand tu regardes, tu sais que ça pourrait jamais tourner sur une 8-bit, quoi.
Voilà, exactement, ça peut pas tourner sur une 8-bit. Et c'est fortement inspiré de Megaman, forcément. Et le but, c'est de recréer, en fait, l'ambiance des jeux d'action à la Megaman des années 80 et 90. On va pouvoir, en fait, utiliser des combinaisons. Il y en a 8 en tout dans le jeu. Et chaque combinaison va te donner, en fait, un pouvoir spécifique à base d'animaux.
D'accord.
Et j'ai pas... Enfin, il y a peu de choses à dire pour l'instant, ce n'est que la campagne...
Après, j'ai envie de dire, c'est un jeu classique, hein. c'est pas un jeu qui cherche à être original ou quoi que ce soit. Alors, le problème de ce genre de projet, en fait, c'est quoi ? C'est que tout joue sur la qualité de l'expérience rétro, quoi, on va dire. Un peu comme Shovel Knight, c'est-à-dire que c'est un jeu qui n'invente rien, mais c'est un jeu qui est tellement réussi dans ce qu'il fait, en fait, que tu prends du plaisir à te replonger dans un jeu avec un gameplay de cette époque-là, quoi. Et là, c'est un peu pareil, c'est que comme ils inventent rien, bah il va falloir que le truc soit hyper polish, et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas, pour qu'on prenne du plaisir dessus, tout simplement.
Voilà, alors pour l'instant, la campagne Kickstarter n'est pas terminée. Au moment où on enregistre ce podcast, il reste encore 26 jours. Le but, c'est de récolter 50 000 euros. Ils en sont à 11 290 euros pour l'instant.
Mmh.
Précisons que c'est un projet français développé à Strasbourg, n'est-ce pas?
Voilà. Maintenant, il y a des sorties physiques de prévues. Sur Xbox One, PlayStation 4, sur PC, sur Switch et sur 3DS. Il y a aussi un artbook prévu et un CD contenant les musiques du jeu.
Ils ont annoncé une date de sortie ou pas? Il me semble pas avoir vu ça sur la campagne.
Moi non
bon,
plus.
Bon, c'est après ce que ça vaut les dates de sortie hein, sur Kickstarter. Voilà. Mais...
en tout cas, ça sortira pas cette année.
Alors par contre, moi, dernier bémol, c'est la somme demandée, 50 000 euros. Alors je sais que c'est à la fois beaucoup à demander sur Kickstarter et pas beaucoup, c'est ça le problème. D'un autre côté, c'est un projet qui a l'air quand même assez avancé, j'imagine que c'est pour boucler les fins de mois. Mais 50 000 balles, quand on sait que c'est un projet français, et qu'on a une petite idée du niveau de vie en France, hein, c'est pas grand chose quoi. Il va falloir qu'il le boucle rapidement, j'imagine quand même, hein. Mais sinon, à part ça, l'esthétique rétro est très réussie. Megaman, moi, c'est un des jeux de mon enfance. Hein. C'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Enfin, en tout cas, un des premiers jeux, tu sais, qui m'a laissé un vrai souvenir indélébile, quoi, on va dire. Forcément, dès que tu me montres un jeu qui est dans ces veines-là, bah, écoute, ça m'attire, quoi. Du moment que c'est bien fait, c'est comme Shovel Knight, quoi. Faut que l'expérience soit au poil. Quelque chose à ajouter, Maureen, peut-être? Je ne sais pas.
Non, mais j'espère que le genre a pas été tué par Mighty Number 9 en fait. C'est quand même un gros Kickstarter d'il y a quelques années qui avait déçu à sa livraison. J'ai peur que les fans se mettent un petit peu à distance de ce genre de projet Kickstarter. Mais du coup, à voir à la fin de leur phase de financement.
C'est ça. Il y avait pas de démo hein, disponible, il me semble, par contre, sur ce projet.
Je crois pas.
Je ne crois pas non plus, non.
Ça, par contre, pas bien. Pas bien.
C'est pas bien.
Non, mais c'est surtout que, bon, honnêtement, quand tu vois ce qui est présenté, je doute pas une seconde que... Enfin, ça a l'air très avancé, quoi, si tu veux, mais c'est juste qu'on est à une époque aujourd'hui où c'est un handicap. Voilà. On va enchaîner, messieurs, sur un projet, je crois qu'on a évoqué il y a très longtemps ici, un projet d'un monsieur que j'admire beaucoup, et ce monsieur, c'est Konjac. Konjac, pour moi, c'est bien simple, c'est un des seuls gars sur cette planète qui arrive à faire des jeux d'action de la qualité d'un jeu Treasure. Et quand on sait ce que je pense des jeux Treasure, croyez-moi, c'est un compliment de fou furieux. et son dernier projet, donc, c'est Iconoclast. Iconoclast, c'est un projet, ça fait des années qu'il bosse dessus. Il était un peu en silence radio depuis un certain temps. Et ça y est, il a dévoilé il y a 2-3 jours une vidéo de gameplay où il détaille donc pendant 4 minutes un peu le gameplay de son jeu. Et ma foi, bah ça met une claque. Quoi. C'est-à-dire que Konjac, il faut savoir que c'est un obsédé du détail. Et ça se voit, quoi. Le jeu, il a une pêche de folie et moi je suis... j'attends. J'attends avec impatience. Alors, je précise que c'est un Metroidvania. Mmh. Franchement, la direction artistique, pour moi, c'est le pixel art, mais à son summum, quoi.
Oui. Ça me fait beaucoup penser à Owlboy, en termes de visuel.
C'est ça.
Ce qui est un très bon compliment, a priori.
Ah oui, non, mais il y a une obsession de la qualité de l'animation, etc. Alors, petit bémol, par contre, je suis pas convaincu pour le moment par la bande-son.
Ouais.
Je parle là vraiment de musique, hein. C'est un peu redondant, quoi, on va dire. Ça serait bien qu'il accorde autant de détails à la bande son que au visuel, quoi. Donc, dans tous les cas, je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description de l'émission. Ma foi, un projet à surveiller, même si un peu comme Oldboy, on l'aura pas tout de suite, hein. Parce que je rappelle, Oldboy, c'est aussi un projet au long cours. Je crois qu'il avait mis 8 ans à le développer. On doit être dans ces eaux-là pour Iconoclast.
Ah ouais.
Bon, allez, on enchaîne, messieurs, et on va terminer cette séquence petit projet indé avec Session, qui est un jeu de skate, mon cher Pixel.
Voilà, c'est tout simplement Skate 4, un futur projet Kickstarter qui n'a pas encore commencé au moment où on enregistre. La campagne va commencer officiellement le 21 novembre. Moi, j'avais joué, je me souviens, du premier Skate qui était... radicalement différent des Tony Hawk, qui étaient extrêmement what the fuck, c'était très arcade. Puis le jour où Skate est arrivé, Tony Hawk Skateboarding a pris un coup de vieux et est devenu ringard du jour au lendemain, parce que pour la première fois, tu jouais à ce qui pouvait ressembler le plus possible à une véritable simulation de skateboarding, même s'il y avait quand même un petit côté arcade, hein, faut pas se le cacher.
Bah, ça reste du skate. Hein.
Et puis, est-ce qu'une vraie simulation de skate bien hardcore, ça serait fun? J'en suis pas sûr.
Ça risque d'être un peu dur, ouais.
Ça risque d'être un peu dur. Et ce qu'il y avait de bien dans Skate, en fait, c'est qu'il y avait une satisfaction, un sentiment d'accomplissement que j'avais pas eu avec Tony Hawk, où il suffisait...
J'avais un vrai sentiment de progression. Quoi.
Voilà, mm-hmm. Il y avait un vrai sentiment de progression. Quand j'avais joué, j'avais eu vraiment du mal les premières heures à sortir des figures extrêmement simples, parce qu'il utilisait un système, en fait, avec les deux sticks analogiques, et tu devais faire des figures, et c'était pas simple. Mais une fois que j'avais réussi mes premières figures, c'était comme les vrais skateurs qui passaient des heures, des jours, des semaines à perfectionner leurs tricks, comme on dit. C'était vraiment un jeu qui était très intéressant pour l'époque. Bon, après, Skate 2, c'était pour moi juste le même en plus gros. Et Skate 3, j'y ai jamais joué, j'ai fait que la démo. Et j'ai jamais acheté le jeu. Mais après le 3, bizarrement, il n'y a jamais eu de 4. Et s'il n'y a pas eu de 4, c'est que le 3 a pas forcément marché, quoi.
Et le genre est un peu mort avec Skate 3, j'ai l'impression.
Bah, c'est-à-dire que le problème de Skate, c'est que, bon, hormis son système révolutionnaire avec les deux sticks, qu'est-ce que tu pouvais faire de mieux? Pas grand-chose.
Justement, Pixel, tu parles des deux sticks. J'ai lu des reproches de gens qui ont testé cette démo et qui disaient qu'il y avait quand même une grosse différence par rapport au skate original. C'est qu'il y a pas mal de commandes qui se faisaient par non pas sur les sticks, mais sur les gâchettes.
Voilà,
notamment
parce que...
pour retourner, je crois. Ou... Enfin,
justement,
voilà.
Justement. Alors là, on parle de skate, mais on va revenir à cette démo. Ça utilise les deux sticks. Et j'ai eu vraiment un mal de fou à diriger le personnage. Un mal de fou à faire des tricks, même les plus simples. Pour tourner, en fait, à droite ou à gauche, tu es obligé d'utiliser les gâchettes. Alors qu'on vient de passer des années et des années à utiliser le stick gauche pour tourner le personnage et le stick droit pour la caméra. Et là, je suis sûr qu'avec plusieurs heures d'entraînement, je vais pouvoir y arriver, mais c'est absolument contre-intuitif. Absolument. Mais pour le système de tricks, c'est à peu près le même chose que les skates. Graphiquement, c'est propre. Hein, j'ai une GTX 970 et je le fais tourner à fond. J'ai pas vu de ralentissement. Enfin bon, le niveau qu'il est offert dans la démo, il est minuscule, donc il faudra voir après quand tu te baladeras dans la ville avec des voitures qui passent et tout ça, plein d'effets graphiques. Faudra voir ce que ça donne. D'ailleurs, dans la démo, il y a un système de jour-nuit qui est extrêmement rapide.
C'est du proof of concept, quoi, en fait.
Voilà, c'est du proof of concept. Bon, l'écran est extrêmement large avec le fameux effet bottleneck qu'on voit sur les vidéos de skate avec, enfin, il rajoute des ombres sur chaque coin de l'image et ça me gêne parce que ces ombres-là, je les vois et je suis pas concentré sur le centre de l'image là où il y a mon personnage, tu vois. Donc, ça me dérange
ça
un peu.
Ça te distrait de l'action, quoi.
Voilà. Et j'espère qu'on pourra les virer dans le jeu final. Ça reste joli, quand même, pour du pré-alpha.
C'est bien fignolé, apparemment, quand même. Hein.
Ouais, ouais, c'est bien fignolé. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment très, très propre. J'attends de voir. Pour l'instant, la démo est disponible que sur PC. On vous donnera le lien pour aller la télécharger. C'est gratuit. Faites-vous plaisir. Mais il faut jouer avec une manette. Sur les claviers, oui. Je crois pas que ce soit possible. Et c'est, voilà, ça fait longtemps qu'on attendait un Skate 4. Electronic Arts n'en fera pas. Ou alors peut-être qu'ils en feront un. Qui sait? Si ce jeu session a du succès, peut-être que Electronic Arts va faire un Skate 4.
Ils te feront un Skate 4 avec des loot box où tu pourras choper des skins pour ton
skate. Planche. Pour ta planche. Un skin Star Wars pour ta planche. Ça va être génial.
On y reviendra tout à l'heure.
Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Mais bon, voilà, tout ce que je peux dire, allez-y, allez télécharger la démo, c'est gratuit.
Faites-vous votre avis. Voilà,
faites-vous
c'est
votre
ça.
Avis.
Et comme d'habitude, à part tous les projets qu'on a cités, là, je rappelle que c'est du financement participatif et que rien n'est certain, n'est-ce pas?
Voilà.
Prudence tout de même. Bon, mon cher Morren.
Oui.
Suite et fin d'un dossier qu'on a suivi activement ici à Game Info, n'est-ce pas? Ce dossier, c'est celui des doubleurs de jeux vidéo de la SAG-AFTRA, pour être précis, aux États-Unis, qui étaient en grève depuis un moment. Et ça y est, la grève est levée et apparemment, ils sont parvenus à un accord.
Ouais, ça fait plus d'un an, en fait, qu'il y a un conflit entre les deux gros éditeurs de jeux vidéo et le syndicat américain SAG-AFTRA, donc qui n'est pas uniquement pour les acteurs doubleurs, mais aussi les acteurs en général. Notamment, on peut citer Life is Strange Before the Storm, qui a dû passer de son actrice principale, de la voix de Chloé. L'actrice faisait grève, et donc n'a pas participé à la suite, enfin à la...
À préquel.
À la préquel du jeu. Donc voilà, ça y est, un... Un accord a été signé jusqu'en 2020, parce que voilà, il y a des accords de branche qui se signent sur une période donnée, donc il y aura probablement une révision en 2020. L'idée, c'est que, bah voilà, il y aura des primes qui seront négociées avec les acteurs doubleurs, ce qui leur permettra une plus grande aisance dans leur pratique du métier. On se rappelle que, voilà, ils se plaignaient beaucoup des conditions de travail, notamment du rapport paye par session d'enregistrement et du fait que, bah, on leur donnait pas assez d'informations sur comment ils devaient jouer telle ou telle phrase. C'était très très important pour eux, forcément, puisque bah, une performance d'acteur, ça se base aussi sur le ressenti que lui est capable de projeter, et forcément, s'il comprend pas ce qu'il doit déclamer, c'est complexe. Et puis il y avait tout ce qui était simplement conditions basiques du travail. Je rappelle qu'il y avait forcément un acteur doubleur, bah, il travaille avec sa voix, sauf que si on lui fait participer pendant 15 heures à un enregistrement, le lendemain, il va avoir un petit peu plus de mal à crier, hurler, pleurer, etc. Voilà, donc a priori, gain de cause, la grève donc va prendre fin, et cet accord va pouvoir permettre à nos éditeurs de profiter, ben voilà, de doubleurs de haute volée, avec des accords revus à la hausse.
J'en profite pour attirer votre attention sur un article premium de Gamekult sur le sujet en France, n'est-ce pas ?
Ouais.
Dans les coulisses du doublage du jeu vidéo, après l'affaire de la VF de South Park.
Eh oui.
Tout un programme. Article que j'ai lu, qui ma foi assez intéressant. Alors, si vous vous intéressez un peu au sujet, je suis pas sûr que vous apprendrez grand chose, mais pour les béotiens, je pense qu'il y a pas mal d'infos assez intéressantes.
Ouais.
Bon, bah écoute, comme quoi ça sert de gueuler, hein.
Bien sûr.
On y revient tout à l'heure.
On y revient tout à l'heure, ouais.
On va parler maintenant, mon cher Pixel, du jeu en ligne, n'est-ce pas? Il se trouve, qu'on a eu une série de fermetures là qui sont tombées ces derniers temps, qui sont assez violentes d'ailleurs.
Bah ouais, parce qu'on va commencer avec Disney, cette sympathique entreprise néolibérale que tout le monde adore, hein, qui se soucie de ses employés. Ah non, merde, j'ai oublié, qui se soucie de ses marques, hein, déposées plutôt que de ses employés, excusez-moi.
De ses dividendes.
Et du paiement des dividendes de ses chers actionnaires, excusez-moi, j'ai ripé, excusez-moi.
Tu as pris tes désirs pour des réalités.
Voilà, ouais, sur un malentendu, ça pouvait marcher sur un malentendu, mais non, voilà. Bref, Disney, ils ont décidé de faire des économies apparemment. Ils avaient des employés qui avaient un studio qui s'appelait Gazillion Entertainment. Et ce studio avait développé Marvel Heroes.
Je rajouterais même l'excellent Marvel Heroes, en tout cas à son lancement. Enfin, de ce qu'on avait dit, c'était en termes de hack and slash, ça faisait partie du top du panier. Après, je sais pas comment ça s'est développé derrière.
Et pour faire court, Disney a décidé justement de se débarrasser de Gazillion en terminant le contrat et en fermant les serveurs de Marvel Heroes, tout simplement. Pour une raison qui a pas été officialisée pour l'instant, je crois qu'on la connaîtra pas, à moins que...
Oh, ça manquait de lootbox, sûrement.
Ça manquait de lootbox, voilà, quoi.
Mais ça manquait peut-être tout simplement de joueurs, hein.
Oui,
peut-être aussi.
J'ironise, voilà.
Voilà. Et il y a un porte-parole de Gazillion qui a pris la parole, justement, sur les réseaux sociaux pour nous indiquer, en fait, que les serveurs du jeu seront ouverts jusqu'au 31 décembre 2017. Donc, pour ceux qui ont le jeu, profitez-en. Parce qu'au 1er janvier, ce sera mort.
Ils vont d'ailleurs couper tout ce qui est monétisation du jeu, donc voilà.
Donc ça, c'est pour Disney, et
voilà.
Du côté d'Ubisoft, il y a aussi du changement.
Voilà, Ubisoft veut faire aussi des économies, donc ils ont décidé en fait de désactiver les fonctions multijoueurs pour pas mal de leurs anciens jeux. Et il n'y a pas que de la merde hein, dans leurs anciens jeux d'ailleurs, parce que j'ai la liste, je vais vous la donner après. Le service Uplay, en fait, il sera plus disponible pour les jeux en version console. Ça, il faudra le savoir. Les unités de monnaie Uplay seront désactivées aussi. Les récompenses seront désactivées. Et l'ULC sera aussi désactivé. Et je dois vous avouer que je ne sais pas ce que c'est ULC.
Oui, je ne sais pas ce que c'est non plus.
Parce que c'est pas marqué ce que ça veut dire. ULC, c'est un acronyme, mais ce n'est pas...
Ce serait pas le club Ubisoft, machin, là?
Je ne sais pas.
Peu importe, ce qui compte, c'est que ça sera fermé, voilà.
Voilà, ce sera fermé, et je vais vous donner la liste des jeux, parce qu'elle n'est pas très très longue. Alors, il y a les Schtroumpfs 2.
Je pense que ça ne sera pas une grosse perte.
Vous pourrez plus jouer en multi. Quel dommage. Il y a Splinter Cell Blacklist.
Ah, déjà, ça commence à taper
voilà.
Dans le dur.
Bon,
hein.
Faut dire aussi que le jeu est sorti il y a pas mal d'années, il y a plus doit certainement plus y avoir beaucoup de monde qui joue en online.
Ouais, mais j'ai un argument derrière. Continue, je vais développer.
Alors, il y a Flashback Origins. Bon, je pense que tout le monde a déjà oublié ce jeu dès sa sortie, vu qu'il n'était pas génial, paraît-il. Il y a Assassin's Creed Recollection. Voilà. Il y a Just Dance 4. Il y a Just Dance 3 Greatest Hits. Just Dance Disney Party. Marvel Avengers Battle for Earth. Rabbids Land. Your Shape Fitness Evolved 2013. Je ne sais pas qui joue encore à ce jeu en multi. ESPN Sport Connection. Shaun White Skateboarding. Shaun White Snowboard. Call of Juarez 3 The Cartel. Ox 2. I Am Alive. Ce qui est bizarre pour ce jeu parce que je l'ai et c'est un jeu purement solo. Prince of Persia The Forgotten Sands. Rayman 3 HD. Ruse. Alors ça, Ruse, c'est extrêmement bizarre parce que c'est le jeu multi par excellence.
Oui, là, c'est un peu chaud par contre. Tu vois, sur Ruse.
Voilà.
C'est un petit problème, quoi.
Parce que Ruse, tout son potentiel, c'est le jeu en multi, justement. C'est pas le jeu en solo, mais bon. Et enfin, Just Dance 3. Voilà.
Alors, les codes ULC, je viens de regarder ce que c'était. En fait, c'est des codes de contenu exclusif dont typiquement, quand t'achètes, je sais pas, ton Assassin's Creed à la Fnac, tu vas débloquer un contenu exclusif, typiquement genre une tenue pour ton personnage. C'est
oui,
ça,
donc
les
en
ULC.
Gros, tu pourras pas retélécharger les contenus spéciaux, quoi.
Exactement.
Je voulais en venir à mon argument. Moi, que Ubisoft ferme les serveurs, ça me choque pas, c'est normal. Par contre, c'est comme d'habitude, on a un éditeur qui n'a pas mis en place une solution très simple qui permettrait de résoudre le problème sur PC. Ça s'appelle les serveurs dédiés. C'est-à-dire que n'importe qui peut ouvrir son serveur. C'est con, hein, ça marchait comme ça il y a des années et ça marchait très bien. Ça, c'est la problématique des jeux en ligne à l'heure actuelle. Alors qu'il y ait des serveurs officiels, pourquoi pas, moi ça me pose pas de problème. Mais je ne vois toujours aucune justification au fait que les joueurs ne puissent pas mettre en place leur serveur privé à eux. Enfin, si, la justification, je la connais, hein, c'est parce que, évidemment, si les joueurs mettent en place leur serveur à eux, ça pose tout de suite un problème, tu sais, par rapport à tout ce qui est DLC, microtransactions, etc., quoi. Donc, encore une fois, un effet de bord des microtransactions. Ce qui en vient donc à ma transition, n'est-ce pas?
Oh, quel talent.
C'est l'expérience, monsieur, l'expérience. Nous allons vous parler de Star Wars Battlefront 2. Bon, alors a priori, je pense que tous nos auditeurs qui nous écoutent là en ce moment sont à peu près autant informés que nous sur le sujet, si ce n'est plus, hein, parce que on en a un peu parlé partout, n'est-ce pas ? On va pas revenir sur la communication catastrophique d'Electronic Arts cette semaine. On ne reviendra pas sur le fait qu'ils détiennent le record du poste le plus downvoté sur Reddit. On ne reviendra pas sur le fait qu'ils ont tenu un Ask Me Anything sur Reddit qui ne rimait absolument à rien et où des gens avaient prédit avant qu'ils tiennent le machin que, en gros, ils ne diraient rien de significatif. Et c'est exactement ce qui s'est passé, hein. C'était un Ask Me Anything en mode langue de bois, ce qui était totalement prévu, n'est-ce pas? Et donc, ce sur quoi on va revenir, par contre, c'est sur le fait qu'ils ont plié. Voilà, enfin, qu'ils ont plié. Faut le dire vite, hein. On va dire que c'est une... Ils reculent pour mieux sauter. Ouais. On va dire ça comme ça. Parce que, en gros, à force de s'être fait tracher à mort sur Internet, et que probablement Mickey les a appelés pour leur dire « Arrête de déconner avec ma propriété intellectuelle, s'il te plaît, sinon ça va mal se passer. »
C'est confirmé, ça. Hein. C'est le directeur général de Disney qui les a appelés. En mode vénère.
Les mecs, on a déjà des problèmes avec les journaleux qui boycottaient nos séances au ciné.
Ouais, ils ont banni le Los Angeles Times et derrière ils se sont pris ils se sont pris le feu de l'enfer dans la face.
Ouais. Voilà, c'est ça. Donc on a déjà assez de problèmes comme ça avec la presse ciné, hein. Alors vous n'allez pas nous casser les couilles. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rétropédalage express d'Electronic Arts comme on n'en a jamais vu, hein, et que, honnêtement, je pensais jamais voir ça de ma vie, pour être très honnête avec vous. À savoir que, ils ont posté une annonce en mode, stoppez les rotatives, s'il vous plaît. On va étudier le sujet, et promis, à la release, il n'y aura pas de microtransactions. Bon, par contre, on vous les remettra plus tard, hein, vous aurez droit à vos lootbox, vous en faites pas. Mais à la release, il n'y aura pas de microtransactions, donc s'il vous plaît, achetez mon jeu. S'il vous plaît, par pitié, s'il vous plaît, achetez mon jeu, s'il vous plaît. Arrête de t'enfoncer, s'il te plaît. Arrête. Arrête, c'est pas bien. Il faut pas te faire du mal comme ça. Bon, plus sérieusement, messieurs. D'un côté, tu vois, il y a le joueur en moi qui est satisfait, qui bombe le torse et qui se dit, quand même, on a réussi à les faire reculer un tout petit peu.
Ouais.
Mais de l'autre, vous nous prenez vraiment pour des jambons, là. Vous voyez, mais j'ai retiré les microtransactions, vous pouvez l'acheter. Je vous remettrai une douille plus tard, mais achetez-le. Mais on n'est pas con, mec.
Génial, c'est qu'ils te préviennent, en fait, que d'ici quelques mois, ils vont les remettre. Qu'ils vont travailler activement, là, tout de suite, au lieu de patcher le jeu, au lieu de machin. Ils vont travailler sur comment mieux intégrer les microtransactions, plutôt que juste de les enlever, en fait. Non, oui. Pas de problème.
Bon, encore une fois, moi, qui mettent des microtransactions, moi, ça ne me pose pas de problème. Par exemple, moi, le fait de payer pour débloquer un héros, ça me choque pas plus que ça si c'est un nouveau héros, par contre. C'est-à-dire que autant ça me choque qu'un gars qui ait payé 60 balles ait pas accès à tous les héros d'office, autant ça me choque pas, par exemple, que si par la suite Electronic Arts rajoute du contenu et notamment des nouveaux Jedi, par exemple, ça me choque pas, tu vois, qu'il faille les payer. Après tout, tout travail mérite salaire, hein. Et si c'est du nouveau contenu qui n'était pas inclus dans le jeu de base, et c'est ça la nuance importante, ça me pose pas de problème. Par contre, qu'on fasse tout pour que les gens mettent la main au portefeuille pour payer les héros qui sont déjà inclus dans le jeu, alors qu'ils ont quand même payé 60 balles, hein, faut pas déconner. Enfin voilà. Ça, c'est problématique. Et ensuite, il y a la question des loot box. Là, pour moi, c'est simple, hein, il faut les virer, c'est tout, point. Alors, je sais qu'il y a une frange des joueurs qui dit « Oui, mais les lootbox, si c'est cosmétique, ça pose pas de problème. » Alors, à une époque, j'aurais été d'accord avec ces joueurs-là. Je suis à peu près certain, par exemple, que j'ai dit à une époque des modèles économiques de Valve qu'ils étaient réglo parce que c'était du cosmétique. Sauf que j'ai un peu changé d'avis sur le sujet parce que, entre-temps, on m'a expliqué comment ça marchait et on m'a notamment expliqué le fait que ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas sensible, tu sais, au côté machine à sous des lootbox, qu'il n'y a pas des gens dont c'est le cas. Bien sûr. Un système qui exploite la faiblesse, on va dire, d'une certaine frange de la population qui est sensible tout simplement à des mécaniques de jeu d'argent, quoi. Alors, je me doute qu'il y a certains joueurs qui s'en foutent, mais moi, ça me pose un problème moral, quoi, on va dire. Parce que je me dis, fondamentalement, pourquoi on mettrait pas en place un système de skin où bah t'achètes la skin que tu veux t'acheter, quoi, point.
Bien sûr.
Au lieu de mettre des machines à sous, quoi.
Ouais.
J'ai lu beaucoup de personnes dire « Ouais, mais moi, ça me pose pas problème, ce modèle économique où t'as les baleines qui paient pour les autres, après tout, s'ils ont l'argent. » Mais justement, peut-être qu'ils n'ont pas l'argent, en fait. Jusqu'à preuve du contraire, hein, l'addiction, ça tombe pas que sur les gens qui ont du pognon. Hein. Donc, à part ça, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, messieurs.
Non, mais ça prouve, encore une fois, que c'est possible de faire plier un gros éditeur qui a des grandes idées, encore une fois. On rappelle quand même qu'il y a un mois, on parlait du studio Visceral Games qui a été fermé par Electronic Arts, justement parce qu'ils étaient persuadés que les microtransactions et le Game as a Service qu'est Battlefront 2 n'auraient pas besoin, en fait, d'un jeu solo only pour vendre plus d'argent. Et là, un mois après, on se rend compte en fait que bah les gens chient dessus. Et en fait, j'aimerais bien juste qu'ils se rendent compte que les gens n'en veulent pas et que il y a probablement un moyen d'implémenter des microtransactions. Parce que bon, on va partir du principe que les microtransactions, voilà, jamais on en aura terminé. Mais si on part de ce principe-là, il y a probablement un moyen de les intégrer mieux dans un jeu que de faire la machine à sous, comme tu le dis.
Alors, pour nuancer, par contre, Mandren, les gens, on va dire les joueurs, hein, parce que je suis pas sûr que le grand public en général soit aussi regardant sur le sujet, sauf si on attire leur attention sur le fait que c'est un système addictif et que leurs gosses vont jouer à ça. Ensuite, oui, ils ont reculé, mais ils ont reculé parce qu'il y avait Disney derrière.
C'est ça.
Je suis persuadé que si Electronic Arts a reculé là, c'est parce que Disney est soucieux de son image, notamment auprès des enfants, et que avoir le nom de Disney accolé avec jeu d'argent,
et oui,
c'était pas du plus bel effet. Et comme en plus ça commençait à arriver, bah tu sais, il y a beaucoup de parlements, je crois, il y a le Parlement belge qui se penche sur la question, le Parlement français qui a évoqué la question, c'est arrivé en Angleterre aussi, je crois, enfin bref. Le phénomène commence à grossir, on va dire, et autant je suis à peu près persuadé que Electronic Arts en avait rien à foutre, autant, à mon avis, la Disney, ils ont dû, mais péter un câble, quoi. Mais par contre, il n'y aurait pas eu Disney, je suis persuadé qu'il n'aurait pas bougé
d'un pouce. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et on en parlait il y a deux semaines, du fait que l'aller-retour entre Disney, enfin entre Lucasfilm et Visceral Games était complexe, et que ça avait aussi causé des problèmes sur le jeu qu'ils voulaient faire. Là, on est typiquement dans une situation où le fait de travailler avec un acteur externe va pouvoir faire ployer un éditeur comme ça. Parce que Disney, concrètement, s'ils ont envie, ils cassent tout. Genre, c'est terminé, quoi. Et faut bien voir aussi qu'on est à un mois de la sortie de Star Wars 8 et que, clairement, Disney a pas envie que la licence soit entachée par ce genre de move d'Electronic Arts, quoi. Mmh. Et c'est pour ça aussi, à mon avis, qu'ils disent que, bon, d'ici quelques mois, ça va revenir. Parce que d'ici quelques mois, bah, il y aura plus de Star Wars à vendre et qu'il y aura moyen de repartir sur une nouvelle vague de shitstorm, quoi.
Et là, ils s'en foutront, par contre, à mon avis.
Bah, je pense qu'ils sont en regardant quand même de comment c'est fait, mais le problème, c'est que Electronic Arts leur vendra, on pense en vendre tant de centaines de milliers de dollars, et ils vont dire, ouais, y a pas de problème.
Voilà. Pixel.
Comment dire, j'ai ripé, pardon. J'ai ripé, voilà. Sur un malentendu, j'aurais pu arnaquer les joueurs, mais j'ai ripé. Donc je me retire. Voilà. Ça, c'est Electronic Arts. Et Disney.
Et en plus, toi, je sais que tu commences à voir ça d'un très 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 mauvais œil, parce qu'il se trouve que du côté d'un certain Tech2, ça parle d'inclure ce genre de choses dans tous ses prochains jeux. Et il se trouve que toi, tu es un gros consommateur des expériences en ligne de Tech2, donc...
bah, tout GTA Online. Ouais. Pour l'instant, tout est gratuit, donc ça va, mais je me demande si Rockstar est pas en train de nous faire la technique du dealer, c'est-à-dire nous offrir gratuitement la première dose et après nous faire payer par la suite. Mais bon, la première dose, ça fait quelques années qu'elle dure, mais c'est peut-être pas innocent, c'est peut-être nous habituer à toujours télécharger les nouvelles mises à jour avec les nouveaux DLC gratos et avec GTA 6. Bon, ouais. On va ripper. Chérie, on va ripper, donc tu vas payer.
Après, il y a quand même plein de trucs qui sont disponibles en microtransactions dans GTA Online. T'es juste pas obligé de les acheter.
Et t'as pas des mécanismes prédateurs qui jouent sur l'addiction des gens pour te les vendre, quoi.
Alors, c'était pas le prévu, mais juste pour qu'on parle un peu de GTA Online, là, les deux derniers DLC qui sont sortis ont des mécaniques qui jouent en fait sur la frustration.
Ah.
Voilà.
Ah.
Voilà.
Ah.
Donc, enfin, surtout l'avant-dernier, qui te permet d'avoir un bunker et de faire des développements d'armes spécifiques.
Ouais.
Vu que le développement est volontairement extrêmement lent.
Oh là là.
Il faut parfois peut-être 1 à 2 heures de jeu réel pour avoir une amélioration. Et il y en a plein. Il y en a plein d'améliorations à développer avec ton bunker. Tu peux payer soit avec l'argent du jeu, mais à chaque fois, c'est du 250 000 $. Mmh. Et 250 000 $ dans GTA Online, il faut quand même du temps pour les avoir. Ou alors, tu payes avec de l'argent réel grâce aux Shark Card, qui sont faits des espèces de cartes de crédit qui t'octroient genre 1 million de $ du jeu. Ouais. Mais tu payes avec du vrai argent. Voilà.
Les fameux time savers qu'on nous vend un petit peu partout.
Et après, on te tient un discours à Electronic Arts en mode « Alors, ok, on a fait ce système qui joue sur la frustration des gens, etc. Mais c'est pour que vous vous sentiez fier une fois que vous avez débloqué votre personnage.
Voilà. » Voilà. Et mais avec GTA, c'est subtil, en fait, le niveau du bunker qui est là, mon dernier gros DLC. Là, c'est flagrant. Avec le dernier qui est sorti, là, avec les avions, avec où tu peux avoir un aérodrome pour toi tout seul, c'est moins flagrant. Mais c'est quand même un peu là. Donc ils ont peut-être revu leurs espérances à la baisse. Mais pour le DLC du bunker, là, c'est flagrant. C'est que le jeu le DLC te force à acheter des shark cards.
Bon,
c'est évident.
Pixel, te plains pas. Hein, sur Star Wars Battlefront, au début, il fallait 40 heures pour débloquer Dark Vador. Hein, donc...
La base.
La base.
Qui est juste le personnage le plus attendu du jeu, hein, mais il fallait 40 heures pour le débloquer, voilà. Alors que t'avais payé 60 balles, hein. Enfin bref. Bon, Morren, on va terminer sur une affaire assez triste, c'est celle de Telltale.
Ouais, Telltale, en fait, on a appris cette semaine que ils allaient se séparer de 90 de leurs employés. Alors 90, déjà, rien que comme ça, ça paraît énorme, mais c'est en plus un quart des effectifs totaux du studio. Donc c'est vraiment une énorme vague de licenciements. Et il y a une enquête qui est signée US Gamer qui est allé creuser un petit peu, ben voilà, dans les coulisses pour savoir ce qui s'est passé pour en arriver à ça. Alors de l'extérieur, en fait, c'était assez facile de commenter en disant bah oui, bah c'est simple en fait, Telltale Games, ils avaient le vent en poupe depuis la première saison de The Walking Dead, et maintenant en fait bah il y a plus grand monde qui leur donne leur licence, du coup ils ont plus grand chose à faire, et c'est le cas en fait puisqu'ils ont deux projets à venir qui sont Wolf Among Us 2 et la saison finale de The Walking Dead, et deux autres projets qui sont en cours là, c'est Minecraft saison 2 et la saison 2 de Batman. Donc on peut se dire qu'il y a une certaine restructuration qui arrive à la phase de Telltale, sauf que bah, ça arrive assez brutalement au point de se séparer de 25% des employés. Donc pas très cool, et en fait on se rend compte qu'il y avait des gros soucis de management à l'intérieur du studio.
Bah c'est surtout que c'était une usine quoi en fait.
Une vraie usine, c'est-à-dire qu'en fait, les employés vivaient dans un crunch permanent. Alors le crunch dans l'industrie du jeu vidéo, bah, c'est le fait de ne pas compter ses heures en prévision de la release de son jeu. Le problème, c'est qu'avec un jeu épisodique, voire plusieurs jeux épisodiques qui étaient en sortie quasi simultanée, c'est-à-dire que souvent, en une année, il y avait potentiellement 3 jeux qui sortaient épisodiquement, avec en général 5 épisodes par an. Ça fait beaucoup, et du coup, en fait, ils étaient juste en crunch permanent, donc c'était épuisant pour les employés.
Ça, plus le fait que, en plus, à côté, ils bossaient avec un moteur complètement daté, qui avait été développé en 2005 et qui ne contenait pas de moteur physique, par exemple.
Ouais.
Ce qui fait que, quand ils devaient, par exemple, faire rouler une balle, fallait tout faire à la main.
Ouais.
Voilà.
Et donc, ça prenait un temps fou.
Ça, plus le fait que le management est complètement débile, c'est-à-dire que la philosophie du studio... Alors, je vous préviens, les fans de Telltale, vous allez tomber de très haut. Hein,
ouais,
mais,
grave.
En gros, c'était pas genre combien de temps il vous faut pour faire le meilleur jeu possible. Non, non, c'est faites le meilleur jeu possible dans le temps qui vous est imparti. Voilà. Et il paraît que c'était marqué à l'entrée d'un bureau d'un des directeurs du studio.
Ouais.
Et ça en dit long sur la... philosophie du studio, c'est-à-dire c'est une usine, voilà. On te fait des séries comme on fait des voitures, hein, on te sort ça à l'arrache et démerdez-vous pour respecter les délais, quoi.
Voilà, donc c'est assez triste en fait de se rendre compte que un studio qui avait été encensé hein, au moment de la sortie de Walking Dead a commencé en fait à produire ces jeux qui marchent entre guillemets comme des petits pains. Et peu importe en fait si les employés de l'usine, hein, puisque c'est littéralement une usine, se sentent mal ou n'ont pas le temps de produire quelque chose qui, de leur propre standard et de qualité, ils s'en foutent en fait de la qualité du moment que ça sort. Donc c'est assez impressionnant en fait cette enquête de voir en fait que...
Derrière un studio qui se la jouait, tu sais, de narratif, un petit studio alternatif, tu vois, etc., qui fait des choses différemment et tout, mon cul, ouais.
Et au final, bah, on se rend compte que le studio en est à un vrai tournant de sa vie, parce que, la conjonction, en fait, entre le manque de licences qui leur sont confiées, parce qu'il faut bien voir que d'ici 2018, il n'y aura plus Walking Dead, hein, qui est quand même leur vaisseau amiral. Voilà, ils auront plus que Wolf Among Us, qui est la saison 2, qui est très attendue pour le coup. Mais après ça, on sait même pas d'ailleurs s'il y aura une saison 2 de Game of Thrones. Ça avait été confirmé en 2015, mais on n'en a plus de nouvelles. Et après ça, en fait, ils font quoi, Telltale? Alors, il paraît qu'il y aurait enfin des rumeurs selon lesquelles ils changeraient de moteur. Mmh. Enfin.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'ils ont changé de PDG, qu'apparemment il est en train de faire le grand ménage.
Ouais. Alors, le grand ménage, ça passe aussi par le licenciement de certains cadres qui étaient un peu toxiques, dont je vous parlais. Mais bon, ça représente pas les 90 employés. Hein. Dans les 90 employés, il y a plein de gens qui avaient rien demandé. Et c'est juste que, forcément, vu qu'ils ont moins de demandes, ils ont plus besoin d'avoir autant de personnel. Et
le problème, c'est qu'ils aient fait la transition aussi tard, quoi. Parce que s'ils avaient fait la transition au moment où ils étaient au sommet de leur popularité, quoi, ils auraient pu les garder, les employés.
Exactement.
Mais là, c'est plus possible.
Ouais, mais le truc, c'est qu'ils auraient dû s'en douter, parce que finalement, leur jeu le plus vendu, c'est Walking Dead, et plus ça allait, moins les saisons se vendaient. Leurs autres projets sont moins vendus aussi.
Bah, je veux dire, au bout d'un moment, à force d'appliquer exactement la même formule sur tous les jeux avec une technique qui est complètement à la rue, bah ça finit par se voir, quoi.
Mais c'est surtout qu'en plus c'est une formule et une structure qui est déceptive. On en a longuement parlé dans le podcast à chaque occurrence de certains jeux Telltale, et on a même totalement arrêté de parler des jeux Telltale parce que même nous on les achète plus, on n'y joue plus. Les ficelles, on les voit, c'est tout le temps la même chose, et puis au final, la promesse du « les gens se souviendront de ce que tu fais », au final, ça ne sert à rien. Enfin, ça n'apporte quasiment rien à chaque fois. Donc, ouais, on arrive vraiment à un tournant tel, et suivant comment ils le négocient, je sais pas en fait si le studio sera encore avec nous d'ici quelques années, quoi.
Je me rappelle très nettement qu'ici, on se posait la question, mais comment ils font pour bosser sur autant de projets? Ben, on a la réponse.
Voilà.
Voilà. Bon, je propose qu'on s'arrête là, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Pixel.
J'avais juste un truc à dire, c'est que je me demandais combien de temps, en fait, Telltale allait continuer à survivre à ce rythme en ne proposant qu'un seul type de gameplay à leur jeu, qui est toujours le même, qui est à savoir faire des choix qui sont pas vraiment des choix parce que ça changera pas la fin. Pour moi, ils avaient fait le coup de force avec la première saison de Walking Dead, qui était un concept original pour l'époque.
Encore qu'on aurait pu dire qu'ils ont pompé sur David Cage.
Ouais, mais on pourrait revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Skate. Ouais, d'accord, sorti du gameplay avec les deux sticks, tu fais quoi? Et pour Telltale, c'est la même chose. C'est-à-dire, en dehors des choix qui sont pas des vrais choix, Telltale, ils ont rien d'autre comme style de gameplay. Puis ils ont eu le même problème que les développeurs de Angry Birds, hein. C'est-à-dire que Angry Birds, ils ont fait un jeu qui, sans mauvais jeu de mots, était une poule aux œufs d'or. Et ils ont tiré la corde. Voilà, sur un malentendu, ça peut marcher. Ils ont tiré sur la corde, mais comme le jeu a jamais été plus que envoyer des poules, ou enfin des oiseaux plutôt dans les airs. Bah, ils se sont cassés la gueule, puis ils ont vu trop gros. Et là, Telltale, en fait, ils suivent le même chemin.
C'est con à dire, mais c'est la même histoire, tu sais, des studios qui marchaient pas jusque-là, tu vois, et qui, à un moment donné, ont un succès.
Ouais.
Et qui tirent sur la corde. Capitalisent sur ce succès, qui cherchent pas à se diversifier, en fait.
Bah non, pourquoi se diversifier?
Puisque ça marche. J'ai envie de dire, voilà. Ouais, pourquoi
tant
se diversifier?
Tant que ça marche, mais le problème, c'est le jour où ça marche plus, bah t'as l'air con, quoi.
Bah là, ils ont réussi à mettre le coup de frein juste à temps, mais il y a de la casse quand même.
Ouais.
Donc, faudra voir avec les prochains titres qui sortiront.
Voilà. Bon, Mordren.
Oui.
Nous allons passer au jeu du moment. Un jeu du moment, encore une fois, sur lequel je rappelle que tu as fait une vidéo. Donc, à la limite, si vous voulez la version courte, il y a une vidéo de Mordren qui est très bien faite sur YouTube. Je vous mettrai un lien, n'est-ce pas, comme d'habitude. Et je vous invite à aller la voir. Et ce jeu, c'est Super Mario Odyssey. Come on. Youhou! Here we go, off the rails, but you know it's time to raise our sails. It's freedom like you never knew. Any flags or a pass, say the word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Oh, we can zoom all the way to the moon of this great wide wacky world. Jump with me, grab coins with me, oh yeah. Jump up in the air, jump up, don't be scared. Jump up and your cares will soar away. And if the dark clouds start to swirl, don't feel a jet of tears, 'cause I'll be your one-up girl. So let's all jump up super high, high up in the sky. There's no power of like dancing. You know that you're my superstar. Ready for the song, let's do the Odyssey. Odyssey, yes, see. 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 Odyssey. Mordren.
Oui. Alors, Super Mario Odyssey, donc exclusivité Nintendo Switch, bien sûr, c'est sorti le 27 octobre 2017, c'est de la plateforme 3D. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un jeu d'exploration 3D Mario sur console Nintendo, parce que bon, j'ai lu d'un petit peu les 3D Land et 3D World.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Mario un peu libre, quoi, on va dire.
C'est ça.
Une exploration un peu libre.
Voilà. Exactement. Et du coup, ça y est, on l'a enfin. Le deuxième gros jeu de Nintendo cette année pour un petit peu enfoncer le clou sur la sortie de la Nintendo Switch. Et pour le coup, c'est un joli coup. Alors, on revient à une structure un peu ouverte à la Mario 64, à la Sunshine.
Parce que moi, vraiment, quand je le vois, ce jeu me fait penser à Sunshine. Hein.
Ouais, c'est, effectivement, beaucoup à Sunshine avec la liberté de mouvement. Alors, pour le coup, il n'y a pas de hub central dans Super Mario Odyssey. On arrive donc dans des mondes qui sont plus ou moins grands, avec plus ou moins de choses à faire, mais qui sont remplis, ils sont vraiment foisonnants de plein de trucs à collecter. S'il y a bien un truc qu'il faut voir, c'est que c'est Super Mario Collectionnite. c'est-à-dire que, au-delà des pièces jaunes, vous allez avoir dans chaque monde des pièces violettes qui sont uniques à chaque monde, dans un nombre limité, qui vont vous permettre, en fait, d'acheter des petits collectibles qui seront uniques à ces mondes-là, et bien sûr...
Des costumes, notamment, je crois.
Des costumes, et puis des trucs pour customiser votre Odyssée, puisque l'Odyssée, c'est le petit vaisseau dans lequel se déplace Mario et son compagnon Capi, qui vous permet, du coup, en fait, en collectant un certain nombre de lunes, d'aller au monde suivant. Sachant que, n'ayez pas peur, le nombre de lunes pour aller au monde suivant est quand même très très bas par rapport au foisonnement de lunes qu'il y a au-delà de ça.
Si vous voyez une centaine de lunes à collecter, vous en faites pas, vous n'allez pas devoir en collecter une centaine.
Donc ne vous en faites pas, ça va pas être très compliqué d'arriver jusqu'à la fin du jeu. Et pour le coup, ça c'est un truc qui est assez global à ce titre. On sent que Nintendo a vraiment pensé à ce que ça soit possible pour un joueur relativement occasionnel de terminer le jeu, d'aller jusqu'au bout. Mais il y a aussi plein de trucs à faire pour les joueurs qui sont un peu plus aguerris, on va dire.
Mais justement, Manren, je voulais te poser une question par rapport à ça. Ouais. J'ai lu beaucoup de critiques sur le fait que le jeu était trop court et que le jeu était trop basé sur la collectionnite.
Ouais.
Mais d'un autre côté, moi j'ai envie de dire, est-ce que Mario a pas toujours été un peu basé sur la collectionnite ? Est-ce que c'est vraiment si différent que ça de 64 et de Sunshine ?
Alors, si je reprends Mario 64 et Mario Sunshine, surtout Mario 64, vous allez avoir énormément moins d'équivalents des lunes, donc c'était les étoiles à l'époque, et les soleils dans Sunshine. Il y avait un vrai temps à respecter entre le moment où tu voyais qu'il fallait faire tel truc et le moment où tu atteignais ton but. Là, dans Mario Odyssey, c'est beaucoup moins le cas parce qu'on parle quand même d'une console qui est hybride, donc qui est à la fois portable et de salon. Et Nintendo a pensé au fait que il fallait aussi proposer des sessions qui étaient potentiellement courtes. Ce qui fait que on arrive à des moments où, en 5 minutes, tu vas choper 3 lunes.
D'accord.
Et du coup, en 5 minutes pour choper 3 soleils dans Mario Sunshine, je pense qu'il faut y aller. Tu tiens peut-être plus du speedrun qu'autre chose. Voilà, c'est vraiment très très différent. Pour donner un ordre d'idée, la première fois que t'arrives dans le deuxième monde, tu vas avoir accès à, 60 lunes, et tu peux quasiment toutes les choper dès la première exploration. Il y a des moments où tu te dis, j'ai rien fait, arrête de m'en donner, et c'est vrai que, de ce point de vue-là, en fait, ça va être très gratifiant pour un joueur occasionnel qui se dit, j'ai trouvé ça, machin. En fait, j'ai l'impression qu'ils font tout pour choper l'attention et garder l'attention.
Parce que moi, jusque-là, j'avais l'impression quand même que l'intérêt du 100% dans un Mario, c'était, tu sais, on va te mettre une lune dans un coin un peu compliqué, pas très accessible, tu vois, etc.
Ouais.
Et du coup, tu vas devoir déployer ton skill pour y accéder.
Ouais.
Ce que moi, je t'ai vu jouer, et en fait, tu tombes, une lune, voilà, tombe par hasard dessus. Et limite, il y a des lunes, elles sont chiantes à choper, pas tant parce que le coin est difficile d'accès, mais juste, fallait penser à aller venir chercher là, en fait.
Exactement.
Ça me faisait penser à la vidéo d'Usul, tu sais, où il parlait d'un gameplay chiant, où on dit, faut que t'ailles chercher un truc. Voilà, faut que j'aille chercher un truc. Ah oui, il faut que j'aille chercher un truc, ça a l'air génial. Autant ça ne dérange pas qu'un jeu fasse appel à mon intelligence et que par le level design, il m'amène à un endroit et que quand je tombe sur ce truc, je me dis « Ah, ça c'est bien, tu vois ». Autant tomber par hasard sur un truc comme ça et me dire « Ah tiens, j'ai trouvé une lune super », je trouve pas ça très gratifiant, quoi.
En fait, faut bien voir que les joueurs qui sont occasionnels... Moi, j'ai montré le jeu à ma copine qui est très très occasionnelle comme joueuse et elle veut pas y jouer, en fait. parce que l'appréhension de la 3D pour les ennemis et tout, bah ça fait peur. Et puis il faut jouer avec deux sticks, ce qui est pas du tout la même chose qu'un jeu Mario en 2D. Et en fait, j'ai l'impression que Nintendo a vraiment pensé à ces joueurs-là en disant, voilà, s'il y a un jeu Mario 3D que vous allez terminer, bah c'est celui-là. Le souci, c'est que forcément, en tant que joueur aguerri, toi, t'arrives là-dedans, et puis, bah, tu trouves tout, parce que t'as l'habitude de fouiner dans les jeux Mario 3D, et tu te dis, ah tiens, il y a un truc à cet endroit-là, il y a forcément quelque chose à trouver, quoi. Et c'est vrai que, du coup, on en arrive à un joueur comme moi, qui, pour le coup, n'a pas beaucoup, beaucoup de skills, mais qui a une capacité d'observation, va trouver beaucoup de choses tout de suite et trouver le jeu relativement facile. Alors, pour le coup, tu parlais de jeu trop court, je suis pas très d'accord. Là, j'y ai joué 35 heures, je dois être à... je suis à 55% du 100%, quoi.
Ouais, mais ceux qui critiquaient le jeu par rapport au fait qu'il soit tout court sont des gens, tu sais,
qui l'ont fait en ligne droite.
Ils sont pas là pour faire le 100% et qui le font en ligne droite, en fait. D'où ma question, si tu veux, par rapport aux gens en ligne droite, est-ce que c'est tellement différent que ça de Mario 64 et Sunshine? Parce que moi, j'ai pas l'impression que Sunshine et Mario 64, ouais, quand tu faisais gens en ligne droite, ils étaient tellement longs que ça.
Certainement. Hein. Après, moi, je fais jamais mes jeux en ligne droite, donc je pourrais pas répondre à cette question. Mais pour te donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, le record du monde du speedrun sur Super Mario Odyssey, parce que c'est un jeu qui est excessivement speedrunnable, il est à 1h20.
Et il y a encore des choses à optimiser.
Ah oui, il y a énormément de choses à optimiser, parce que bon, ça fait 3 semaines que le jeu est sorti, donc t'inquiète que... voilà, mais c'est assez impressionnant, moi j'en ai regardé un petit peu, c'est très très fort ce qu'ils font les gens. Mais, quoi qu'il arrive, je pense que tu peux le terminer en... allez, on va dire 8-10 heures, en ligne droite. Mais bon... après, c'est pas le propos, quoi. Enfin, je veux dire, un Super Mario comme ça, tu sais, ça sert à rien de le faire en ligne droite. Enfin, je trouve c'est ridicule.
Par contre, du côté des nouveautés sur ce Mario, mon cher Ren, moi, j'en note deux grosses, on va dire. Il y a d'un côté, donc, l'utilisation de Capi pour posséder les ennemis. Et de l'autre, il y a la palette de mouvement de Mario, parce que j'ai l'impression que le petit père, il est beaucoup plus agile qu'avant.
Ah oui, oui, impressionnant. Alors, en fait, l'un découle de l'autre. Donc, Capi, c'est donc la casquette que Mario obtient au tout début du jeu, qui va lui dire, écoute copain, viens, on va sauver la princesse Peach et ma sœur.
Qui a encore été enlevée par Bowser, hein, voilà. Et qui veut l'épouser, apparemment.
Exactement. Et en fait, le mouvement de base que tu peux faire avec Capi, c'est la jeter devant Mario. Rien que ça, c'est hyper intéressant parce que on se souvient que, voilà, dans l'appréhension de la 3D avec les ennemis dans les anciens Super Mario, il fallait leur sauter dessus. Et c'est pas toujours évident d'appréhender, voilà, ce genre de saut dans un jeu en 3D comme ça. Là, pour le coup, c'est un truc qui est totalement mis de côté puisque pour taper sur un ennemi, bah, tu lui lances Capi. Et du coup, ça règle beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. Donc il y a des ennemis qu'on ne fait que taper avec Capi, mais il y a d'autres ennemis qu'on peut posséder avec Capi. J'ai pas trouvé de meilleur mot que ça, mais en gros, c'est-à-dire que Mario se met à l'intérieur de ce petit ennemi, donc ça va être par exemple un Goomba. Pour le reconnaître, vous avez donc la casquette de Mario par-dessus, et vous pouvez le diriger.
Avec un mouvement signature pour l'ennemi en question.
Exactement, donc ça sert à quoi? Typiquement, un Goomba, ça va pas glisser quand t'es sur de la glace. Par exemple. Ou un Goomba qui saute sur un autre Goomba, et ben ça va faire une petite pile de 2 Goombas, etc., etc., si tu veux faire une énorme pile de Goombas. Bref, ça c'est un truc relativement basique. Tu as d'autres trucs qui sont un petit peu plus intéressants, genre typiquement t'as une bilballe qui t'arrive devant toi, tu la possèdes, et vu que c'est un missile, la bilballe, tu vas pouvoir te déplacer au-dessus du vide grâce à elle et aller du coup à d'autres endroits. Bref, ils appellent ça les chapimorphoses, donc chapeau métamorphose. Il y en a une 50aine dans le jeu, toutes aussi délirantes les unes que les autres. Et il y a un moment, en fait, où tu te dis « Ah oui, je peux faire ça, en fait !» Et c'est vrai que chacun a ses moves signature. Il y a des lunes qui sont pas atteignables si vous n'utilisez pas ce genre de move-là. Alors, rassurez-vous aussi, les mondes sont pas construits pour que vous soyez sans arrêt en train de posséder un ennemi. Vous allez la plupart du temps, enfin 90% du temps, vous serez en tant que Mario à vous déplacer normalement. Ça va être vraiment une utilisation très ponctuelle. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment le gimmick de Super Mario Odyssey.
Est-ce que ça n'est qu'un gimmick d'ailleurs ?
Moi, je trouve que c'est vraiment qu'un gimmick, parce que au-delà de ça, quand t'as chopé toutes les lunes qui sont exclusives entre guillemets à ces utilisations-là, moi, j'utilise absolument plus la chapimorphose. Après, on arrive au moveset de Mario dans Super Mario Odyssey, qui pour le coup est extrêmement vaste, parce que évidemment, il y a tous les anciens moves, mais il y a aussi des nouvelles choses qui découlent de l'utilisation de Capi, parce que Capi, vous pouvez non seulement la lancer vers vous, mais vous pouvez la faire laisser devant vous et sauter par-dessus. Ça vous permet d'aller un petit peu plus loin. Mais du coup, vous pouvez aussi faire ça quand vous êtes dans les airs. Et quand vous êtes dans les airs, ça veut dire que vous changez l'inertie de Mario et vous pouvez faire plusieurs doubles sauts. Typiquement, en fait, tu peux faire un saut sur un mur, tu utilises Capi, tu ressautes sur Capi, tu ressautes sur le mur. Enfin bref, c'est des trucs hyper impressionnants à voir et qui sont pas à la portée de tout le monde, hein, on va pas se mentir. Mais à force de jouer au jeu, tu roules de plus en plus ta bille, évidemment. Et tu te rends compte, en fait, que tu peux atteindre des zones que t'aurais pas soupçonné avant, quoi. Et ça, c'est un truc qui est très cool dans ce jeu, c'est que de la même manière que quand on découvrait Zelda Breath of the Wild, on en parlait avec d'autres gens qui étaient en train d'y jouer. Et on se disait, tiens, t'as vu tel truc, machin, tel truc. Et bah, Super Mario Odyssey a exactement ce même phénomène-là. Parce que, forcément, effectivement, tout n'est pas caché et certaines choses sont assez évidentes. Mais il y a certaines autres choses où tu te rends compte que c'est pas évident pour tout le monde. Et t'en parles, tu dis, non, c'est pas vrai, tu peux faire ça. Et ça, c'est un côté extrêmement cool et très, très gratifiant.
J'en discutais avec un pote à moi qui est dessus, là, en ce moment. Ouais. Et le premier mot qui lui vient à l'esprit, c'est inventivité, en fait.
Ah oui, mais c'est simple, en fait. Les jeux Super Mario, en général, sont toujours très inventifs, mais Super Mario Odyssey te donne, en fait, accès à un panel tellement grand de mouvements que tu peux faire certaines choses de manière totalement différente. Et c'est d'ailleurs en ça que le jeu est si apprécié par les speedrunners. Parce que, en fait, tu te rends compte que tu peux vraiment skip plein de phases de jeu grâce à ces mouvements-là. Et je suis sûr que d'ici un an, ils auront totalement retourné le jeu et qu'il y aura encore des nouvelles choses qu'ils découvriront.
D'ailleurs, si vous voulez voir en français, en ce moment, il y a Mister MV qui s'est remis au speedrun et qui traîne Mario Odyssey.
Ouais.
Et c'est intéressant de le voir traîne justement parce que tu vois le niveau d'un joueur, tu sais, qui est pas encore top niveau, tu vois, mais qui a quand même suffisamment de skill pour sortir des moves qui sont assez impressionnants. Et c'est marrant de voir sa progression comme ça, je trouve. Ça donne l'impression que c'est quand même accessible, quoi.
Oui, clairement. Et c'est très cool, en fait, parce que du coup, le speedrun a non seulement la nécessité d'apprendre un certain nombre de patterns pour les boss, mais aussi de pathfinding pour les différentes explorations. Mais il y a aussi la surcouche du fait que t'as quand même besoin d'atteindre un certain niveau pour avoir assez de lunes pour passer vers un autre monde. Et du coup, tu te rends compte en fait que ils optimisent à fond leur chemin et c'est très impressionnant à voir.
Toujours au rayon des choses qui sont particulièrement réussies, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, l'animation, c'est la folie, quoi. Il y a un souci du détail aussi, c'est-à-dire que par exemple, le Mario quand il se cogne contre un cactus, tu sais, t'as les épines de cactus qui sont enfoncées dans le nez. Waouh, quoi. Enfin, c'est fluide, ça marche. Et d'une manière générale, alors là, je voulais te poser la question, parce que certes, t'as une palette de mouvements comme ça, mais est-ce que tu es à l'aise, toi, quand tu joues, en fait? Est-ce que t'es pas perdu? Est-ce que ça fonctionne, quoi?
Alors, au tout début, quand tu te lances dans le jeu, t'oublies quasiment systématiquement Capi, en dehors des phases de possession qui sont un peu obligatoires. Parce que tu reviens à tes fondamentaux, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que t'es en train d'apprendre un jeu, mais t'as quand même toutes tes expériences précédentes sur les Mario 3D.
C'est-à-dire, depuis Mario 64, tu joues d'une certaine manière, à part Mario Galaxy, qui était un peu différent, mais...
C'est ça, le triple saut, le plongeon, les sauts retournés, et puis les wall jump, ça tu connais, en fait. Donc tu te bases vraiment sur ce socle-là. Mais après, en fait, petit à petit, tu te rends compte que Capi, c'est quand même vachement intéressant ce que tu peux en faire. Et en fait, plus ça va, plus tu utilises, mais il y a quand même effectivement, en fonction du joueur, une habitude à prendre, évidemment.
Et puis il y a toujours les petits clins d'œil Nintendo à côté de ça, genre le niveau en 2D. Tu sais, il y avait le Zelda là qui faisait ça aussi, comme il s'appelait, sur 3DS.
Link Between Worlds.
C'est clairement inspiré de ça, en fait.
Oui,
moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça.
Ouais.
Mais sauf que là, tu te retrouves avec le gameplay des Mario l'ancienne. Mm-hmm. Enfin, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, en fait, c'est qu'il a l'air d'avoir plein de petites idées comme ça.
Il y a plein de petites idées.
Même dans les costumes aussi, je crois qu'il rajoute certains pouvoirs par moment, il me semble.
Non. Pour le coup, les costumes sont purement cosmétiques.
T'es sûr? Parce que, par exemple, le moment où tu... Ah non, non, c'est vrai, c'est une possession, excuse-moi. Ouais. Parce que tu sais, je me rappelais du niveau où t'étais dans un château un peu japonais. Mais en fait, c'est parce que tu possédais une bestiole qui pouvait s'accrocher au mur, c'était pas
exactement.
Le costume. Dans ma tête, c'était le costume de samouraï, mais non.
C'est purement presque cosmétique. Un peu dommage, d'accord. D'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, les costumes sont purement cosmétiques et c'est des références partout. Il y a des références partout dans ce jeu et c'est très cool pour l'œil un peu habitué. Donc ça me fait penser du coup au côté direction artistique qui pour le coup est peut-être un petit peu le côté qui fâche certaines personnes. Alors encore une fois, c'est très très subjectif, mais moi j'apprécie pas trop en fait le côté d'avoir un Mario qui est traditionnellement hyper kawaii dans des environnements qui sont réalistes entre guillemets, dans la mesure où la Switch est capable de les rendre. C'est-à-dire que vous allez avoir des textures qui sont pas très très belles dans certains mondes. Ça me fait penser au premier monde qu'on a vu, en fait, celui où on voit le T-Rex. Et tu vois vraiment que c'est une texture d'herbe, mais qui est vraiment pas jolie.
Yodong City aussi, qui est pas... Enfin, c'est pas beau, quoi. Où t'as des personnages à la Sonic Adventure avec Mario qui passe pour le Mongolio du village. Enfin, c'est très spécial, quoi.
C'est vraiment l'effet Sonic Adventure. Alors, on aime ou on aime pas. Personnellement, moi, j'aime pas trop. Après... faut bien voir qu'il y a certains mondes où ça passe beaucoup mieux, où on est plus dans des mondes
traditionnels en fait.
Voilà,
avec une patte artistique plus colorée, plus chibi. Enfin voilà. Ouais.
Et où tu te rends compte quand même que les textures du monde, c'est pas du kawaii pur, mais sur le rendu global, ça marche très bien.
Bah ça fait pas réaliste quoi.
Non, ça fait pas réaliste. Et moi je trouve que c'est super bizarre en fait que les deux cohabitent. Parce que, en fait, un monde sur deux, presque, t'arrives sur des trucs comme ça.
En fait, moi, c'est surtout ça qui me pose problème, parce que, à la limite, comme tu l'as dit, on aime ou on n'aime pas le côté réaliste de certains décors, point. Mm. Par contre, je trouve qu'il y a une dissonance entre certains décors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité graphique.
Tout à fait.
À un moment donné, tu vas te retrouver dans un niveau qui a la gueule d'un Mario Sunshine. Mmh. Et un autre, tu vas te retrouver dans Sonic Adventure et tu comprends pas, en fait. Ouais. Comment ces deux styles graphiques peuvent cohabiter dans le même jeu, en fait. Ouais.
Mais à côté de ça, le jeu est extrêmement généreux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde à explorer. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. L'endgame est extrêmement touffu, à défaut d'être velu. Franchement, je pense que pour le faire à 100%, il faut une belle cinquantaine d'heures. C'est quand même très très honnête.
Ça va.
Ouais. Et puis bon, effectivement, par contre, bah une fois que tu l'as terminé à 100%, bah t'as plus grand chose à faire. Hein. Mais voilà, c'est t'auras quand même le sentiment d'avoir terminé le 100%. Je reviens au côté des lunes qui sont trouvables un petit peu partout. C'est dommage qu'il y en ait autant parce que ça te gâche un petit peu de ton sentiment d'accomplissement. Une fois
t'as l'impression qu'ils ont un peu privilégié la quantité à la qualité.
Exactement. En fait. Et c'est hyper surprenant de la part de Nintendo, en fait. Moi, au global, j'ai beaucoup aimé Super Mario Odyssey, mais j'en vois tous les défauts, en fait. Et je comprends qu'on puisse pas aimer ou que ça t'est sorti du truc. Mais au global, moi, je trouve que c'est quand même un jeu qui est très, très appréciable.
Alors, bon, on va arriver à la question fatidique.
Ouais.
La question fatidique que je voulais te poser, elle est pas simple à répondre. Et, encore une fois, ça n'est que ton opinion personnelle. Hein,
ouais.
N'agressez pas Morgan, s'il vous plaît, les fans de Nintendo.
Toi, tu vas me demander de juger les différents Mario.
C'est surtout que, on va dire que il y a certains opus comme ça dans Mario qui ont la réputation d'avoir changé la donne.
Oui.
C'est-à-dire que on va pas se le cacher, Mario Galaxy a cette réputation-là.
Bien sûr.
Mario 64 a cette réputation-là. Mm-hmm. Alors que Mario Sunshine n'a pas du tout cette réputation-là.
Non.
Et j'ai l'impression, en lisant les réactions, que c'est un peu le sentiment de pas mal de fans, en fait.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est le tien?
Je le qualifie pas de chef-d'œuvre, Mario Odyssey, qu'on soit très clair. Je trouve que c'est un excellent jeu, qui est critiquable, mais effectivement, il change pas la donne. C'est-à-dire que, il y a des très très bonnes idées de réalisation.
C'est un jeu généreux aussi, faut le dire.
Un jeu qui est extrêmement généreux, un jeu qui est d'une inventivité. Quand tu te dis, oh non, ils ont fait ça, mais c'est trop cool.
Sauf peut-être, dernier point, peut-être négatif sur les boss.
Voilà, ah oui, les boss pour le coup, alors je reviens sur la facilité. Faut vraiment y aller hein, pour pas les réussir du premier coup. Hein.
D'accord.
Bon, c'est comme ça. On revient au fait que bah il faut qu'il soit accessible pour tout le monde. Et bon bah quand tu touches un petit peu ta bosse, bah c'est beaucoup trop facile. Pour moi, on peut pas le qualifier de chef-d'œuvre. Ça n'a rien à voir avec l'ampleur que pouvait avoir un Mario 64 à l'époque. Même si il passe son temps à te dire regarde, je suis le digne héritier de Mario 64. Regarde, je fais des choses comme lui, clin d'œil. Mais ça ne suffit pas évidemment. Hein, on est vraiment dans de la référence plus qu'autre chose. Moi, je comprends pas vraiment le statut d'opus le plus détesté de Super Mario Sunshine, parce que j'ai beaucoup aimé Sunshine à l'époque. Mais effectivement, c'était pas un jeu qui changeait la donne.
C'est un peu comme Dark Souls 2, quoi. C'est-à-dire que il y a des jeux comme ça, comme on est habitué à l'excellence, peut-être. Comme ils sont un peu en dessous, ben voilà, quoi.
Exactement. Mais je pense que c'est un peu le statut de Super Mario Odyssey. C'est-à-dire que il est effectivement un peu en dessous.
Bah, il a quand même un super accueil, je trouve.
Il a un super accueil, mais après, faut bien voir que. Le statut de chef-d'œuvre et le statut de culte, ils s'octroient bien plus tard. Parce que là, on est à 3 semaines de la sortie. Et...
Mais disons que tu sens certaines choses. C'est-à-dire que parmi les fans de Mario, en tout cas, quand ça cite Mario Galaxy à tout bout de champ et que, voilà, tu sens que ça ronchonne un peu, quoi.
Ah oui,
quand
mais
même.
Tu vois, mais moi, les Mario Galaxy, ça fait partie de mes jeux préférés Mario 3D. Mario Galaxy avait un côté inventif à chaque niveau, un sentiment qu'il réévaluait son gameplay à chaque fois. Là, c'est pas du tout la même chose, parce que, pour le coup, Mario Galaxy avait pas cet aspect exploration. Et c'est pour ça que, si tu veux comparer Mario Odyssey, c'est pas à Galaxy qu'il faut le comparer, c'est à 64 et Sunshine. Parce que tu te baladais vraiment dans 64 et dans Sunshine. Dans Galaxy, c'était vraiment une espèce de ligne droite qui était, pour le coup, par moment plus difficile parce que t'avais des choses qu'il fallait, il y avait des timings, il y avait des trucs qui étaient pas forcément faciles à éviter, enfin, ce qui est pas vraiment le cas dans Super Mario Odyssey. Pour moi, Galaxy 1 et 2 avaient cette qualité du fallait quand même y aller hein, pour arriver au 100%.
Disons que Galaxy exploitait la 3D d'une manière différente.
Exactement. Mario Odyssey est plus dans les clous. Et l'ajout du gimmick de Capi et de la chapimorphose ne va pas en faire un chef-d'œuvre, c'est pas possible.
Bah, c'est l'héritier de Mario 64, en fait.
Exactement. Exactement.
Il est dans la lignée de 64 voilà. Et Sunshine, quoi.
Et c'est pour ça que tu peux pas dire qu'il réinvente la roue, puisqu'il est tellement dans les clous que il en reste par moments dans l'ombre de ses prédécesseurs.
Mais à côté de ça, c'est tellement plaisant que voilà, tu l'oublies vite, en fait, tu t'en fous, quoi.
C'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que à chaque fois que tu mets une galette dans ta console, tu peux pas jouer à un chef-d'œuvre. Faut pas non plus. Mais effectivement, quand tu joues à un jeu Nintendo, et en particulier un Mario 3D ou un Zelda 3D, tu t'attends à l'excellence. Là, t'aurais aimé, surtout quand tu sors d'un Breath of the Wild, qui t'a donné vraiment une expérience qui, pour le coup, a très vite été qualifiée de chef-d'œuvre.
Et pour le coup, qui a complètement pété les bases de la série dont tu
exactement. Et pour le coup, quand tu sors d'un Breath of the Wild et que t'arrives sur un Mario Odyssey qui ne challenge pas vraiment ses bases, enfin ne va pas plus loin, ça donne peut-être un sentiment de recul. Après, faut pas oublier que ça reste un excellent jeu.
Et que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on n'avait pas eu un Mario comme celui-là. Donc exactement. C'est pas forcément... Contrairement à Zelda, pour le coup, qui tournait en rond depuis des années et des années. Quoi.
Exactement. Voilà. Donc moi, si vous aimez les Mario 3D, foncez, c'est excellent. Si vous avez envie d'un jeu qui va réinventer la roue, c'est pas ça. Mais c'est vraiment extrêmement plaisant d'y jouer.
Voilà. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Et envoyez vos clés pour Tarkov, s'il vous plaît.